On avait demandé, est-ce que Dieu nous a confié des choses à accomplir à travers sa parole en tant qu'Église? C'était une des questions. Une deuxième chose, c'est est-ce que nous devons marcher vers une destination spécifique en plus de notre salut, de notre sainteté et de notre vie en tant qu'Église? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des réunions de jeunes ici une fois par mois. Et à la dernière réunion de jeunes, excusez-moi, on a parlé de ce que c'était être l'Église. Alors moi, j'ai envie de demander aux jeunes, interrogation surprise, est-ce que les jeunes se rappellent les quatre missions de l'Église? J'ai parlé avec des versets à l'appui de quatre missions que l'Église a. Et si les adultes sont pleins de grâce, ils peuvent aider les plus jeunes. Quelles sont les missions que l'Église a reçues? Qu'est-ce que Jésus a donné à l'Église comme mission? Moi, je ne dis rien. Interrogation surprise. Alors, vas-y. Être témoin de qui Dieu est. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation indirecte aussi. Une des choses, on est appelé à représenter le royaume de Dieu. On est appelé à aller voir les pauvres, à aller prendre soin d'eux, la veuve et l'orphelin. C'est ça, la façon dont le texte biblique nous rapporte cela. On est censé être Dieu. On est censé être plein de grâce, plein d'amour. Ça, c'est une des missions. Une autre des missions que l'Église a reçue. Ah, moi, j'aime bien les interrogations. S'il y a évangélisation indirecte, il devrait y avoir une évangélisation directe. Voilà, c'est ça. L'Église est appelée à proclamer le message de l'Évangile. On a eu toute une prédication hier sur ça. Et c'est pour ça que je le dis. L'Église est un outil utilisé par Dieu pour proclamer son Évangile. On a été jugé digne de confiance. Marqué dans 1 Thessaloniciens, on était jugé digne de conscience par Dieu pour nous confier son évangile, à travers Jésus, bien évidemment. Une des troisièmes missions qui est un petit peu moins connue, c'est on est appelé à célébrer et à juste apprécier la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous savez que dans le dessin original de l'homme, l'homme a été créé pour le plaisir de Dieu. Ça fait un petit peu bizarre à dire en français, mais vraiment, imagine que ton existence donne de la joie à Dieu. Alors peut-être pour certains qui se sont levés un peu du pied gauche ce matin, ton existence ne donnerait pas vraiment de joie à Dieu, mais imagine bien que juste le fait que toi tu es là, avec tes dons, tes qualités, ta présence, eh bien Dieu est content que tu sois là. Et on est appelé en tant qu'Église à juste célébrer ça ensemble. Et alors la dernière mission qui a été confiée, bien sûr par l'Église, c'est d'équiper et d'encourager les chrétiens. Voilà, ça c'était les quatre missions de l'Église en général. Ce que j'aime bien faire avec les jeunes, c'est de pouvoir ensemble définir des choses, peut-être qu'on parle tous les dimanches, mais dont on ne réfléchit pas toujours. Par exemple, si on dit, on rappelle tous les dimanches qu'on est l'Église, mais qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, est-ce que c'est le bâtiment, est-ce que ceci c'est l'Église, ou est-ce que l'Église c'est le groupe de chrétiens qui se tient ici, hein, ensemble, en communion avec Dieu. Alors... ici, je voudrais prendre une approche un petit peu plus locale. C'est la suite du message d'il y a 3-4 semaines, c'est la suite du message des jeunes. Et j'aimerais de parler sur l'Église de Dieu. Et le titre du message, c'est « Église, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un président très célèbre aux États-Unis qui a dit ceci à ses concitoyens. « Ne te demande pas ce que les États-Unis peuvent faire pour toi, mais demande-toi ce que... toi, tu peux faire pour les États-Unis. » Moi, j'aime bien cette phrase pleine de passion. Et si on la retournait dans un contexte chrétien, ne demande pas ce que l'Église peut faire pour toi, mais demande-toi ce que toi, tu peux faire pour l'Église. C'est une approche tout à fait différente, quand même. Mais regardons un petit peu ce que c'est l'Église, rapidement. Léa ? L'Église... c'est l'agent de Dieu pour transformer notre société. Alors, si on lit dans Éphésiens 3, l'Église est un agent de Dieu pour transformer la société. Nous pouvons lire dans Éphésiens 3 que le monde connaîtra le message de l'Évangile à travers l'Église. Ici, j'ai mis Éphésiens 3, 10, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » On parle bien de le message de l'Évangile et de la bonne nouvelle. Alors, qui fait partie de l'Église? Mais bien sûr, nous qui croyons au message de l'Évangile. 1 Timothée 3:15, c'est la deuxième slide. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà ce que tu peux passer le deuxième slide ici, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez pensé un petit peu à votre rôle en tant que chrétien, mais vous faites partie d'une grande famille qu'on appelle l'Église universelle. Parce que vous savez que vous faites partie de cette grande famille. Alors quand l'Église catholique dit « nous sommes l'Église catholique », ils veulent bien dire « catholique » pour dire « universelle ». C'est-à-dire que nous sommes l'Église de tous les saints qui croient en Dieu dans leur cœur. Peut-être que maintenant le mot catholique, ça ne parle plus beaucoup aux gens, mais si je dis « nous sommes l'Église, nous faisons partie de l'Église universelle », eh bien c'est cette Église que Dieu seul connaît, qui est liée par tous ceux qui ont une confession de foi dans leur cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Et si tu crois à ça aujourd'hui, eh bien tu fais partie de cette Église universelle. Alors maintenant, quelque chose qui doit ressortir de notre engagement, et de notre héritage que nous recevons en faisant partie de cette Église, eh bien, c'est quelque chose que, au cours de l'âge adulte, on apprend à développer, mais qu'on a toujours du mal à accepter. C'est ce qu'on appelle les responsabilités. Je ne sais pas si vous avez des responsabilités, je suis certain que vous en avez beaucoup. On a toujours trop de responsabilités, il paraît. Non, je ne sais pas si c'est vrai. J'aimerais prendre avec vous le texte de Romains 12. Romains au chapitre 12. Voilà ce que Paul apporte à l'Église de Rome. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Déjà ici, on commence dans ce chapitre avec deux versets magnifiques où Paul nous encourage à vraiment devenir un sacrifice vivant, que notre vie soit une réflexion vivante, que Christ est bien mort pour nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces paroles un petit peu pleines de symboles? C'est tout simplement suivre Jésus et ne plus vivre pour soi, mais vivre pour Dieu. Et évidemment, Paul, qui est quelqu'un de très terre à terre, sait que un homme qui ne passe pas de temps avec Dieu ne va pas y arriver. Mais un chrétien qui passe du temps avec Dieu et son intelligence est renouvelée, là il y a quelque chose qui se passe, là il y a une mentalité qui change. Paul continue, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous les membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, que celui qui a le don d'encourager, encourage, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour que vous avez soit sans hypocrisie, donc sincère, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien, par amour fraternel soyez plein d'affection les uns pour les autres, et rivalisez d'estime réciproque. C'est très poétique. Rivaliser d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent, vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur la terre. Paul cite un passage de l'Ancien Testament. Hein. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Je trouve ce passage absolument extraordinaire, parce que si tu t'es posé une fois dans ta vie la question « comment est-ce que je vis ma vie en tant que chrétien ?» Eh bien, Romains 12 est vraiment un passage plein de richesses. Mais c'est tout à fait et complètement pratique. Alors, je sais que parfois, dans nos églises aujourd'hui, on fait une dissection entre la théologie et la pratique, entre les dogmes dans lesquels on croit et la vie réelle. Ok ? Un truc qui est intéressant à voir avec Paul, c'est qu'à aucun moment dans sa vie, il ne dissocie la théologie du pratique. Pour Paul, la réflexion intellectuelle doit toujours avoir un impact dans la vie réelle. Pourquoi est-ce que Paul prend cette approche-là ? Parce que si ça reste seulement dans la tête et que ça n'a pas d'effet à l'extérieur, eh bien ça ne vaut rien. Il y a beaucoup de gens qui aiment s'écouter parler. J'espère que je ne suis pas l'un d'entre eux. Il y a beaucoup de gens qui aiment s'écouter parler avec des réflexions philosophiques très profondes. Mais lorsqu'un sacrifice est demandé de vivre par ce qu'il prêche, eh bien là, il y a quelque chose qui ne suit pas. Et j'espère de tout mon cœur que moi, je veux rester loin de ça. Je ne veux à aucun moment ce que je prêche un jour ou ce que j'entends d'un philosophe ne puisse pas être appliqué de façon pratique. Parce que la base de tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de devenir comme Jésus. Donc si on étudie la Bible, c'est bien pour dans cette vision-là. J'avais une discussion avec des gens samedi soir sur la parole de Dieu. Et j'aurais posé la question, ce sont des gens qui sont intellectuels, il y avait une docteure en philosophie et l'autre était avocat. Ce sont des gens forts dans leur foi et je leur ai posé la question, où est-ce que vous mettez la Bible dans votre foi ? Et ils m'ont donné une réponse très protestante. Qu'est-ce que ça veut dire ? La Bible, elle a une valeur quand c'est quelqu'un qui est inspiré de Dieu qui la lit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez un homme qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas foi en l'amour et la bonté de Dieu, qui lit la parole. Ces mots peuvent lui paraître vides, de non-sens. Il y aura peut-être des philosophies contradictoires qui vont naître dans sa tête. On pourrait également être touché par la bonté du message. Mais pour avoir une vraie révélation, et il y a des appuis bibliques pour souligner ça, l'inspiration de ce qu'on appelle le Saint-Esprit est nécessaire. Alors ça a l'air un petit peu compliqué ou un petit peu inspiré, mais c'est juste quelqu'un qui a une relation vivante avec Dieu, mais en lumière à la parole. Et en tant que chrétien, dans le renouvellement de notre intelligence pour devenir l'Église, nous devons chacun lire la parole avec le renouvellement de notre intelligence, à la sagesse du Saint-Esprit. J'aimerais mettre en avant quelque chose qui est cité dans ce passage. Chacun son rôle dans l'Église. Alors je sais que nous sommes un petit peu dans une période où tout le monde veut ressembler à quelqu'un. Tout le monde décide de vouloir, je ne sais pas moi, d'avoir l'air comme George Clooney ou encore Madonna. Ça, c'est pour les plus vieux. Peut-être que certains d'entre vous sont plus sur Justin Bieber. Alors peut-être que c'est pas vrai pour les gens qui sont ici, mais l'idée d'être beau, plein de succès et riche est quelque chose qui attire les gens. Et on a fait aujourd'hui un culte de la personne, un culte d'un certain type A. C'est quelque chose qui existe depuis le début des temps, et en être surpris ou blessé, je pense, serait un manque de sagesse. Mais nous, en tant que chrétiens, nous voulons vivre une vie différente, nous voulons vivre de façon unique et spéciale dans la manière de Dieu nous a créés. Alors, je sais que c'est un petit peu difficile dans l'Église, parce que dans l'Église aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle, c'est un petit peu de l'idolâtrie, c'est ce que j'appelle le culte du mouton. Qu'est-ce que c'est le culte du mouton ? Eh bien, imaginez une église où on a en tête ce que c'est être chrétien, et au lieu de se baser sur la parole de Dieu, on ajoute des choses, on dessine un cadre qui est très bien fait, un petit peu comme les pharisiens ont fait avec la loi, et on solidifie ce cadre, il devient incassable. Et si tu te permets de sortir du cadre, alors la question arrive, est-ce qu'il est vraiment chrétien ? Il est vraiment chrétien, lui, là-bas, là. Je l'ai pas vu mettre, je crois que c'était qu'un billet de 5 dans l'offrande, là. C'est 10 euros minimum, ici. Hein. Est-ce qu'il est vraiment chrétien, là? Il a prié pour seulement 10 secondes. Et le pasteur est pris pour 30 secondes. Tout le monde doit être comme le pasteur. Si tout le monde n'est pas comme le pasteur, vous n'êtes pas vraiment chrétien. Alors, Paul nous a exposé la place du message de l'évangile et son authenticité dans le Romains 12 ici. Il encourage les Romains à une certaine conduite. Et on utilise bien souvent ce verset pour mettre la barre de la vie chrétienne. En gros, en tant que chrétien, tu dois agir comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vrai que si on regarde les principes de ce qui est de ce passage, il est plein de trésors. Et moi, je veux encourager à chacun à courir vers ce but de faire du bien aux ennemis qui sont autour de vous, de faire preuve de bonté les uns envers les autres, surtout dans l'Église. C'est comme ça que les gens nous reconnaîtront en tant que disciples. Mais nous ne devons pas faire attention à avoir un culte du mouton, c'est-à-dire créer des stéréotypes dans lesquels tout le monde se sent obligé d'être. Paul parle de membres avec différentes fonctions, des rôles différents dont les tâches sont différentes. Le verset là nous montre qu'avec des rôles bien spécifiques à remplir dans l'Église, cela permet de construire cette dite Église. En plus de souligner l'unité de l'Église, il faut bien comprendre que l'Église n'est pas juste un pasteur et ses brebis. Mais l'Église est beaucoup plus riche que ça. Déjà, si je parlais de tous les dons que Dieu a donné à l'Église. Je parlais hier d'un don qui est parfois oublié, c'est ce qu'on appelle l'évangéliste. Les deux rôles de l'évangéliste dans l'Église selon la parole, c'est bien sûr d'évangéliser, mais il y a également équiper et encourager l'Église à évangéliser. Et c'est quelque chose qui est parfois obligé aujourd'hui. Le prophète, quel est le rôle du prophète dans l'Église ? Mais le prophète, il peut recevoir des choses très spécifiques et particulières, très intimes de la part de Dieu, et il peut encourager quelqu'un qui avait besoin vraiment d'un mot intime et personnel de Dieu. Il peut également recevoir des visions très spécifiques, faire preuve d'une foi incroyable. Celui qui a le don de guérison. Enfin, il y a toute une liste, l'enseignant enseigne, mais il y a toute une liste de membres différents avec des fonctions différentes. Et moi, je vais encourager chaque personne ici à ne pas sentir qu'il faut devenir un certain type de chrétien. Mais Dieu t'appelle à être la personne que tu es avec tes dons. Bien sûr, tout ça sanctifié, hein. Dieu t'appelle à être la personne que tu es avec tes dons. Alors parfois, je rencontre parfois un homme d'affaires qui se sentait mal à l'aise parce que il me partageait que lorsque le conseil de l'Église parlait de faire des grands pas de foi, lui, et alors c'était pas un manque de respect, c'était genre vraiment sa formation d'économiste, il regardait l'argent et il disait « Ah, il faut faire attention là, parce que si on dépense trop d'argent, l'Église va être dans le rouge, par exemple. Ou faut faire attention là, on ne sera plus un bon témoignage. » Et il y avait une certaine culpabilité de dire « Ah, mais je ne suis pas la personne qui a plein de foi. » Mais un bon économe, c'est quelque chose qui avait beaucoup de valeur pour le royaume de Dieu. Si toutes les églises avaient un comptable sanctifié dans leur comptabilité, est-ce que vous en pensez pas que les églises iraient mieux? Chacun a son rôle dans l'église. Je prends toujours l'exemple de Hillsong. Est-ce que les gens connaissent Hillsong ici? Hillsong. Alors Hillsong, c'est une église très connue qui se situe en Australie, qui a partagé plein de chants dans le monde, mais vraiment beaucoup de chants. Est-ce que vous connaissez certains de ces chants? Oui? Camille, elle en connaît plein. Ouais, je vois ça. Alors, Hillsong, c'est une église qui est née il y a 25-30 ans. C'était repris par un homme qui s'appelait Brian Houston. Et à peu près 4-5 ans après que l'église Hillsong se soit formée, elle a commencé à effectivement beaucoup grandir. Et il y a un homme qu'on appelle l'administrateur, qui à partir de la 4e-5e année a dit « Écoutez, moi je veux bien commencer à travailler à l'église à plein temps et je ferai de l'administration. » Cet homme, aujourd'hui, est le numéro 2 d'Ilsang. Il est la raison pour laquelle Ilsang s'est développé de façon exponentielle dans le monde. Une des choses qu'il a décidé de faire, c'est que tous les comptes de cette église soient transparents dès le début. Donc aujourd'hui, tout le monde sait aller voir toute la comptabilité de cette grande église, et je vous garantis que les méga-églises, tout le monde les regarde et tout le monde vérifie si elles font les choses correctement. Il a été rendre ses comptes transparents dans une idée de comptable qui voulait bien appliquer la parole de Dieu, faire quelque chose de transparent, ne pas cacher les choses, utiliser l'argent de la bonne façon. Il a structuré ça d'une façon qui allait pouvoir bénir le royaume de Dieu. Cet homme, en appliquant ses dons et en les donnant à l'église, il a réussi à construire cette vieille église. Et on peut appliquer ça à nous aujourd'hui. Si toi, tu as été créé toi, et tu as le droit d'être toi de la meilleure façon que tu peux l'être, rempli de Dieu. Alors je dois faire attention de quand même dire que ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas une permission d'être égoïste. Tout cela doit être mis dans une relation vivante avec Christ et quelque chose d'honnête, quelque chose où quand on se met devant lui chaque jour, il nous dit et nous acceptons si on a fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Ça, c'est parfois ce qu'on oublie, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, on est très individualiste, donc tout le monde dit ce qu'on peut être soi. Et c'est ce que Paul dit là également, mais attention. On est individualiste parce qu'on veut glorifier ce que Dieu a créé, pas pour notre propre plaisir. Parce qu'à la fin, même si Dieu a mis des dons extraordinaires en toi, il y a quelque chose de caractéristique à la grâce par rapport à la loi. La loi, donc ce que le juif disait avant dans l'Ancien Testament, la loi, c'est regarder à toi, à ce que toi tu fais, à ce que toi t'as pas fait. La grâce, c'est regarder à Jésus sur la croix. C'est quand même deux choses totalement différentes, deux mentalités tout à fait différentes. Alors, c'est quoi les bienfaits de mon appartenance à l'Église? Ici, souvent, dans notre société aujourd'hui, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on se demande souvent qu'est-ce que moi j'y gagne. On est dans une société individualiste et on demande souvent qu'est-ce que moi j'y gagne à faire partie de cette église ou de telle église. Est-ce que la louange est mieux là-bas? Est-ce que je préfère les gens là-bas? C'est un petit peu un shopping comme ça parfois. Alors bien sûr, il faut aller là où Dieu t'appelle, ça c'est la conviction que j'ai. Mais il y a un bienfait de faire une appartenance à l'église. J'ai déjà rencontré des chrétiens qui me disaient « L'église, ça ne va pas pour moi, alors je n'y vais plus. » Et ce sont des chrétiens sincères qui ont une relation avec Dieu, mais à cause de blessures ou de quelqu'un qui leur a mal parlé ou quelque chose comme ça, ils ne veulent plus aller à l'église. Alors si quelqu'un vous a blessé au cours de votre vie chrétienne, il y a peut-être un temps de repos à prendre, il y a peut-être quelque chose de temporaire à accomplir. Mais il y a certains bienfaits d'appartenir à une église. Romains 12, 5 nous dit « De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous sommes les membres des uns des autres, chacun pour sa part. Nous sommes validés dans notre foi en faisant partie d'une église. Une église fait de nous un chrétien authentique parce que ce que Paul dit dans ce passage, c'est qu'un chrétien, il fait partie du corps de Christ et nous mettons en pratique cette chose-là. Une deuxième chose qu'une église donne aux gens, c'est lui proposer une famille spirituelle pour la soutenir et l'encourager dans sa marche avec Christ. Lisons un peu Galates 6, versets 1 et 2. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même également, de peur que toi aussi tu sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Alors, je sais que parfois dans nos églises, on ne traite pas toujours les gens qui fautent avec amour et douceur, mais c'est à ça que Christ nous appelle. Dieu nous appelle vraiment à nous encourager les uns les autres. À aucun moment l'église doit devenir un poids dans ta vie de chrétien, mais au contraire, ça doit devenir quelque chose qui puisse aider, ou si quelque chose n'a pas été, eh bien, un chrétien qui est frère dans la foi ou une sœur dans la foi avec toi peut venir t'encourager avec une parole du Seigneur, ou peut venir t'équiper avec les choses que tu as besoin pour gérer cette situation au boulot ou à l'école. L'Église doit vraiment être un lieu d'amour et de compassion. Et ceci est tellement vrai, surtout si tu as une mauvaise famille. Je me rappelle quand j'étudiais la psychologie, il y avait quelque chose qui ressortait, c'était le bénéfice d'être dans un endroit interculturel et intergénérationnel. Est-ce que vous savez que l'Église est fascinante du point de vue des psychologues par rapport au fait que c'est un lieu interculturel et intergénérationnel? Alors ceci fait un petit peu anti-église ethnique, mais je pense qu'il y a une richesse dans le fait d'être plusieurs générations ensemble et plusieurs cultures ensemble, tout cela pour louer Dieu. Ceci donne quelque chose de caractéristique à l'Église, que même les psychologues du monde, qui font une approche tout à fait scientifique, ils regardent ça et disent « ça, c'est quelque chose de bénéfique pour l'homme ». Quand la science démontre la vérité de Dieu, moi je trouve ça fascinant. Alors, une autre chose, l'Église nous donne un cadre favorable à sa croissance spirituelle. Lisons Éphésiens 5, 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Dans la vie chrétienne, parfois j'ai l'impression que je dois vendre l'Église à certains chrétiens à cause de leurs blessures. J'aime beaucoup le chant que Camille a joué un peu plus tôt. C'était, je t'en ai parlé, c'était Tu dissipes ma rancœur, c'était ces mots qui m'ont absolument touché. Seigneur, par ta douceur, tu dissipes ma rancœur. Par notre douceur et notre soumission les uns aux autres, ça va faire une porte ouverte vers leur pardon. Si tu as un froid avec un chrétien, par ta douceur, tel que Dieu, tu vas dissiper sa rancœur. Par ton amour, tu as la possibilité d'ouvrir une porte du pardon. Parfois, les émotions sont très fortes, je ne dis pas. Parfois, c'est difficile. Parfois, les gens ont été carrément mauvais envers nous. Ça arrive. Parfois même, c'est des chrétiens. Mais si tu veux aller vers une porte du pardon, pour pouvoir ne jamais avoir une distance entre toi et Dieu, ne jamais te laisser alourdir par des pierres d'amertume, faisons preuve de douceur, soyons soumis les uns aux autres. La slide suivante, s'il te plaît, Léa. Alors, le rôle dans l'Église, elle procure un endroit où tu peux découvrir et utiliser tes dons dans le service. Alors, j'avais dit qu'une des choses que l'Église donnait, c'était vraiment de pouvoir donner aux gens une place pour développer et équiper le chrétien. C'est une des missions de l'Église. J'aimerais bien qu'on lise 1 Corinthiens 12 ensemble. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, et diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tous à tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à une prophétie, encore à un autre le discernement des esprits, la révélation des langues et l'interprétation et la révélation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant en chacun et en particulier comme il le veut. Puis Paul ici, je dois un peu me dépêcher, le Paul ici continue en parlant du fait que le corps est composé de gens différents avec des dons différents. Si tu veux pratiquer tes dons, si tu veux développer tes dons, l'Église est un endroit essentiel pour faire cela. Imagine que tu as vraiment quelque chose de spécial, tu reçois des choses aux gens au niveau prophétique et tu veux pouvoir développer ça. Eh bien, c'est l'Église qui doit pouvoir te donner une place, un cadre dans lequel tu peux faire ça. Aucune personne n'est parfaite et nous devons travailler sur nos dons pour pouvoir les développer. Alors je sais que peut-être ça peut paraître bizarre pour ceux qui n'ont jamais entendu parler des dons de l'esprit, mais il y a quelque chose d'encourageant, de fortifiant de la part de l'Esprit Saint quand il nous déverse ses dons sur nous. Une autre chose que l'Église nous donne, ça nous donne une place sous la protection spirituelle des responsables établis par le Seigneur. Donc lisons Hébreux, au chapitre 13. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui vous sera d'aucun avantage s'il soupira. Alors peut-être pour certaines personnes c'est difficile d'être sous une place d'autorité, mais les gens qui sont appelés à diriger des gens, à apporter une vision à une église, et il y a une idée très spécifique de Dieu là derrière, c'est de pouvoir construire quelque chose. Par exemple, si chaque personne dans une église voulait devenir pasteur et chacun amenait sa vision des choses et son plan pour toucher la région, il ne se passerait pas grand-chose dans cette église. Il y a une église qui est née il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle l'église des athées. Je ne blague pas, c'est un vrai truc. Ça vient de Londres et c'est maintenant en Belgique, à Bruxelles. C'est une église, ce sont deux personnes qui se sont mis ensemble et ont décidé « On voudrait bien faire l'église, mais sans tous les trucs sur Dieu, là. » Donc, il y a un moment de louange, mais c'est des chants séculiers. Il y a quelqu'un qui apporte une parole sur la vie. Et puis voilà. Et alors, pour moi, c'était un petit peu un non-sens. Quand je regardais ça, j'étais là, mais ils sont vraiment sérieux. Et puis, le temps passe un petit peu. Et une église sans Dieu, ça fait une église avec beaucoup de divisions, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens avaient chacun leur opinion. Chacun leur voix à vouloir mettre leur idée que cette église athée voulait faire. Il y a des divisions énormes qui sont pris place. Avoir une protection spirituelle, ça peut paraître quelque chose qui nous menace en notre individu en tant qu'adulte, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire juste quelqu'un à qui on peut aller regarder et on peut demander des conseils, des principes de vie. C'est quelqu'un qui peut nous enseigner des choses. De la même manière que toi dans ta vie, tu devrais avoir des gens dans lesquels tu peux investir, tu peux donner. On est chacun appelé à faire ça. Des gens qui nous forment, des gens avec qui on travaille et des gens que nous formons. Ça, c'est une église vivante. Le rôle de l'église, les rôles de l'église sont importants à prendre à apprendre pour deux raisons. Ça peut nous aider à réfléchir si nous accomplissons bien les rôles que nous avons dans l'église en tant que pierre vivante de cette église. Et une deuxième chose, ça peut nous aider à nous remettre en question en tant qu'église. Est-ce qu'on fait bien ce qu'on est supposé faire? C'est une question importante à poser. Je me rappelle hier un pasteur qui me posait la question. Il se remettait en question. Mon église fait pas d'évangélisation. C'est pas une chose normale. Je veux faire quelque chose à propos de ça. Je veux mettre ça en place. Il avait fait ça par une remise en question. J'aimerais parler un petit peu et finir avec ça des responsabilités que nous avons en tant que membres d'une église. Alors, mon engagement personnel en tant que membre. Vas-y, Léa. Et c'est quelque chose de très pratique. Et je vais y aller vite, comme ça, parce que le temps avance, je suis désolé. Mon engagement personnel en tant que membre d'une église, si l'église m'apporte plein de choses, eh bien, quand quelque chose t'apporte des choses, il y a une autre partie qui vient avec, c'est des responsabilités. Ça ne fait pas toujours plaisir à entendre, mais nous sommes des adultes, donc nous pouvons accepter les responsabilités, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, mon engagement personnel en tant que membre. En tant que membre, tu dois protéger l'unité de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire agir en amour les uns avec les autres. Et Jean 13, 35, associe tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En refusant de faire des commérages, l'Église est un lieu de commérages, comme tous les groupes sociaux. Il faut faire attention de bien dire non. Moi, je vais protéger l'unité de mon Église, je ne vais pas faire ça. En collaborant avec les responsables, Paul, il dit d'une manière très drôle, ne faites pas souffler vos responsables, ce sera bénéfique pour vous. S'ils rouspètent en vous dérogeant, ça ne sera pas plaisant pour vous. C'est un peu dans cette idée-là. Acte 9:31 nous inspire en disant « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » L'Église était en paix dans toute la Wallonie, dans toute la Belgique et dans tout le monde. Oh, alléluia, amen. Il faut bien imaginer le contexte qui écrit Acte. Probablement Luc était quelqu'un qui écrit, qui a créé, probablement la même personne qui a écrit l'Évangile. ils avaient sans doute des discussions entre eux, se posaient la question pourquoi est-ce que l'Église avance. L'Église était en paix. L'Église reflétait vraiment les valeurs du royaume. Une deuxième responsabilité, c'est d'assumer ses responsabilités. Vas-y. Alors, deuxième, c'est assumer les responsabilités qui m'incombent. C'est quoi ta responsabilité? Prier pour la croissance de l'Église. Tu dois remettre ça dans le Seigneur. Tu dois demander au Seigneur de vraiment bénir ce qu'il fait ici, l'œuvre qu'il veut faire dans la région. En invitant les incroyants, c'est pas toujours facile. Si tu trouves que ton Église n'est pas un lieu où tu peux inviter des incroyants, alors mets des choses en place pour que ça le devienne. Peut-être faire un café à la fin, peut-être faire quelque chose de plus social, peut-être ouvrir un dimanche par mois aux non-chrétiens, créer une réunion d'évangélisation le vendredi soir pour que des non-croyants puissent venir. Qui sait? Mais nous avons la responsabilité, nous, chaque membre de l'Église, d'inviter des incroyants pour qu'ils puissent entendre le message de l'Évangile. En accueillant chaleureusement les visiteurs, j'ai travaillé dans un groupe de jeunes il y a quelques années où c'était international, anglais, français, et tous les enfants étaient des enfants de missionnaires. Et ils vivaient dans un ghetto très fort. Et une chose qui ne marchait pas bien, c'est quand il y avait des nouveaux, eh bien personne n'allait leur parler. Alors les gens ne se sentent pas accueillis. Nous avons la responsabilité en tant que membres d'accueillir les gens avec chaleur, avec joie, avec sincérité. Une troisième chose qu'on doit faire pour notre église, je serai un serviteur dans mon église. Je serai un serviteur dans mon église, en découvrant mes dons et mes talents. Bien sûr, j'avais parlé que l'église est l'endroit où on fait ça. C'est ta responsabilité de pouvoir voir qu'est-ce que moi je peux apporter à mon église. En me laissant équiper et superviser par mon responsable. Deux choses là-dessus. Recevoir des critiques, ça s'apprend. Et les donner, ça s'apprend aussi. Voilà, parfois on oublie l'un ou l'autre, mais... Si vous avez des leaders et des responsables qui voient et qui croient en vous, alors la façon dont ils vont vous parler, c'est vraiment pour votre bien. Donc vous avez confiance que quand ils vous donnent un feedback, quand ils vous donnent quelque chose par rapport à vos dons et vos talents, c'est quelque chose de positif. En développant un cœur de serviteur, eh bien oui, l'Église c'est un groupe de serviteurs. On doit tous être au service les uns des autres. Si c'est chaque fois la même personne qui fait toujours la même chose chaque dimanche, à un moment donné ou un autre, ça va la fatiguer. Et on a besoin tous de se servir les uns les autres. Un dernier chose, je soutiendrai le témoignage de mon église. Je ne sais même plus. Oui, c'est bon. Je serai fidèle aux réunions et aux activités. Si on fait une réunion le dimanche matin et qu'il n'y a personne, il n'y a personne. On doit être fidèle aux activités et aux choses de l'église en tant que membre qui veut que l'église avance. La foule attire la foule, ils disent chez les jeunes. S'il y a personne dans une église et quelqu'un entre dedans, il va se demander, mais est-ce que c'est vraiment pertinent ce qu'ils disent là-dedans? C'est impressionnant, hein? Bah oui, les gens se posent la question, est-ce qu'il y a personne? Enfin, pour vous, s'il y a personne, c'est pas intéressant. Une deuxième chose, en donnant régulièrement pour son soutien et fonctionnement, ça c'est sur la dîme. Eh bien oui, si on fait partie d'une église, si on est membre de celle-ci, tu dois mettre un investissement aussi bien physique, émotionnel que financier. C'est dans l'ordre des choses, c'est pas quelque chose pour voler les gens, c'est pas quelque chose pour avoir une pression sur eux, c'est juste pour construire une église, on investit dedans. Et en menant une vie digne de l'évangile, on doit être des témoins, c'est pas toujours facile d'être témoin pour l'évangile, et parfois malheureusement on fait ça dans le sens inverse, on compte toutes les choses qu'on a fait mal, au lieu de voir où on était et où est-ce qu'on est en train d'aller. Okay. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire tout simplement que les gens, ils ne vont pas vraiment regarder le nombre d'erreurs que vous faites en tant que témoin. Ils vont regarder c'est quoi votre attitude quand vous faites des erreurs. Imaginez quelqu'un qui a un problème avec la colère et qui a une tête dure. Il ne veut pas dire qu'il a tort, même s'il sait, hein, mais non, il le dira pas. Il s'est mis en colère, puis c'est comme ça, c'est tout. Ça, c'est pas un bon témoignage. Mais même si quelqu'un a un problème avec la colère, imaginons, il se met en colère, mais après il fait, écoute, je crois pas que je dois vivre ma vie comme ça. J'ai un tempérament, je suis désolé. Ce que t'as fait, enfin, tu expliques le ressenti émotionnel. Le but que je suis en train de dire, c'est la façon dont on gère nos erreurs que les gens vont regarder. Et si en plus on pointe vers Jésus après, ça c'est magnifique. Ça c'est vraiment le témoin de l'évangile. Nous devons devenir comme l'église des actes. Nous devons devenir comme l'église des actes, une église en paix, en mettant ces choses-là en place. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Moi, j'ai envie de voir ça en Belgique, bien évidemment. Je partageais aux jeunes hier que moi, je crois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau en Belgique, que l'église qui va arriver, elle sera beaucoup plus grande et que on a une responsabilité de la préparer à toutes ces vagues de non-chrétiens qui vont arriver. Moi, je crois qu'on va faire partie de ça. Amen.
Amen.
Je vous laisse avec une question aujourd'hui pour nous et pour la prière. Sommes-nous des consommateurs ou des acteurs dans notre foi, de notre foi? Sommes-nous des acteurs ou des consommateurs? Parce qu'il y a quelque chose à changer dans notre cœur. C'est une question entre vous et Dieu.